Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu.
Alors, si vous regardez votre ordre du jour, on voulait se remettre en marche aujourd'hui, être productif et productive, tout le monde ensemble, quand on regarde notre ordre du jour. On va passer une séance plénière qui a pour thème en français « Embleuissez votre ville, votre communauté ». Il ne s'agit pas là, du blues, du jazz, là, du dimanche matin où on est fatigué, pessimiste. Pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire du pessimisme dont nous voulons parler aujourd'hui. C'est une vision et avec optimisme de l'action qu'on peut entreprendre dans nos communautés pour changer les choses. J'ai vu des gens, lorsque Mira, tu nous as posé la question, si on a appris des choses, si on a connu des gens, ils se serraient la main pendant que tu posais la question. Il y a eu des vraies rencontres ici qui se sont produites et des collaborations pour l'avenir que j'espère qu'on va en entendre parler. Et pour faciliter cette discussion-là aujourd'hui, un peu selon la formule d'hier où il y a eu une présentation ici à l'avant, des gens assis confortablement comme nous nous ont parlé. Il y a eu quand même un peu de temps pour des échanges. On aura un petit peu moins de temps aujourd'hui pour les échanges, mais on va demander que ces personnes-là puissent nous expliquer un peu plus avant leur propre vision, leur donner un certain temps pour qu'ils puissent, elle et elle, expliquer leur vision et nous donner matière à réflexion sur la façon possible d'embleuir nos collectivités. Alors, Mira, on va procéder dans les deux langues. J'ai oublié de me présenter tantôt, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis du Syndicat canadien de la fonction publique. Claude Généreux, je suis le secrétaire de Trésorerie nationale. Voilà, c'est fait. On revient à nos invités, qui est plus important. Nous avons à notre, si vous allez à votre programme, nous avons des invités. Et bien sûr, Mira Karuna Nantan, tu fais partie de ces invités ce matin qui va nous parler de ces campagnes pour embleuir nos communautés. Il y aura aussi Martine Ouellette de la coalition Au Secours, que je vais inviter aussi à venir de l'avant, nous parler aussi de sa vision pour pouvoir embleuir nos communautés. Et Mira,
merci,
est-ce que
Claude.
Tu peux nous présenter l'ensemble des autres panélistes, des autres participants?
Oui, je vais appeler Shannon Biggs. I'd like to call Shannon Biggs up to the stage.
J'aimerais lui demander de venir à l'avant pour notre prochain panel sur les mesures communautaires. Shannon Biggs et Steve Ogden.
So just to...
Alors, simplement pour vous expliquer, on a maintenant un panel assez bref et on n'aura pas vraiment le temps d'avoir des questions et réponses par la suite, mais on est tous des gens faciles d'accès. Alors, vous pourrez vous adresser à nous pendant les pauses si vous avez des questions et on sera content d'y répondre. Alors, ici, on parle de mobilisation communautaire. Est-ce que je voudrais faire pour dresser un plan pour la mobilisation communautaire. Je vais expliquer ce que nous avons fait, nous, au Conseil des Canadiens. On travaille beaucoup plus au niveau communautaire et j'aimerais souligner certains des grands enjeux qui ont été soulevés dans d'autres ateliers pour vous donner une petite idée de ce qui se fait d'un bout à l'autre du pays. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment agir au niveau des communautés? Souvent, quand je songe au travail que moi, j'accomplis, que nous accomplissons à la campagne nationale de l'eau au Conseil des Canadiens, je songe à ce qu'avait dit Gandhi quand il a dit « La terre fournit tout le nécessaire pour les besoins humains, mais pas pour l'avarice humaine. » Et notre panel d'hier a indiqué à quel point le gouvernement avait échoué dans son rôle d'assurer l'accès à l'eau pour l'ensemble des collectivités. Appeler ça un manque de leadership, ce serait trop peu dire. Ce que nous avons en réalité au Canada, c'est une tentative délibérée pour permettre à l'avarice des sociétés d'avoir le haut du pavé par rapport aux besoins humains.
Fédéral pour répondre aux problèmes urgents et aucune volonté au niveau fédéral pour conserver et protéger nos eaux. La politique fédérale de l'eau date de plus de 20 ans et est très désuète. Notre approvisionnement en eau fait face à des défis de plus en plus nombreux, dont la contamination, la pénurie, la privatisation, le changement climatique dont on a parlé hier lors du rassemblement et les pressions pour exporter l'eau aux États-Unis par pipeline ou par déviation. Maude a parlé des différentes formes de privatisation qui ont lieu à travers le Canada. We have not mapped.
Nous n'avons pas cartographié nos ressources de bassin versant, dans de nombreuses municipalités, on a des pénuries de ressources et pourtant on permet à des compagnies de mettre de grands montants d'eau en bouteille et d'expédier ça d'un bout à l'autre du monde. On a parlé dans l'atelier sur les mines hier, pour ceux qui étaient, on permet aux entreprises qui minent de décharger des toxines directement dans nos lacs. On est parmi les rares pays industrialisés à permettre aux entreprises de le faire. Et Steve a parlé du fait que nous construisons des dépotoirs qui font du lessivage, où le lessivage se fait vers le bassin hydrographique.
Stratégie pour ouvrir la porte grande à la privatisation. Nous n'avons toujours pas d'interdiction fédérale sur les exportations en vrac de l'eau. Le gouvernement Harper refuse de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins des communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'hygiène. Et en même temps, comme Blair a mentionné hier, on force les municipalités à explorer les partenariats privés-publics afin d'avoir accès aux subventions fédérales, malgré les nombreuses preuves dont on a parlé sur le panel international, les nombreuses preuves que les pétroirs ont des effets néfastes sur l'environnement et sur l'intérêt public. Et maintenant, on vient de recevoir plus d'informations sur la stratégie du gouvernement de l'Alberta qui veut établir un marché de l'eau.
Les droits des entreprises sont bien entérinés depuis des décennies par des ententes commerciales qui ont servi à miner l'autorité des gouvernements locaux, et Stephen Scheinman nous en parleront un peu plus cet après-midi. Notre gouvernement fédéral a échoué par rapport à nos besoins. Nous continuons à faire pression envers le gouvernement fédéral pour qu'il adopte une politique fédérale. Cependant, il est critique que les collectivités réagissent, qu'elles revendiquent leur droit à protéger leurs ressources locales en eau. C'est la seule façon de mettre un terme à des visées qui ont permis à l'avarice des entreprises d'avoir le haut du pavé par rapport aux besoins humains, par rapport à l'intérêt des personnes et des collectivités et de l'environnement. C'est la raison pour laquelle le syndicat canadien de la fonction publique a lancé le projet d'embleuir les villes. Il s'agit d'un cadre pour les municipalités et pour nous, il s'agit de l'antidote aux visées des grandes entreprises qui dominent nos politiques au pays à l'heure actuelle. Par notre réseau de différentes sections locales, chapitres alliés dans les collectivités au pays, nous demandons au gouvernement de reconnaître que l'eau est un droit de la personne, en interdisant l'eau en bouteille dans les espaces publics et en déclarant que chaque collectivité est exempte de PPP. Nous sommes aussi adressés à différentes autres organisations dernièrement pour élargir le projet et pour inclure la conservation de l'eau comme volet. Nous avons inclus Ottawa River Keepers ici à Ottawa, le réseau environnemental autochtone. Nous avons travaillé avec Au Secours pour lancer une version québécoise du projet en mars 2010. Nous avons aussi invité Global Exchange, une merveilleuse organisation qui travaille à partir de la Californie, pour contribuer de l'information sur la stratégie, une stratégie très populaire et de plus en plus populaire aux États-Unis, ce qu'on appelle l'organisation à partir des droits. On permet à ce moment-là aux collectivités d'adopter des lois pour empêcher d'autres paliers du gouvernement de prendre des décisions qui font du dommage à l'environnement. Shannon Biggs est responsable de la campagne Accès sur les droits. Elle a rédigé un livre qui s'appelle Building Green Economies, des réussites à partir de la base, et elle travaille en aidant les collectivités qui sont menacées par les grandes entreprises pour entériner les droits de la collectivité de la nature plutôt que les droits de l'entreprise. Alors Shannon, je suis très heureuse que vous soyez des nôtres. Dites-nous un peu plus sur l'idée de campagne Accès sur les droits aux États-Unis. D'où vient ce concept? Et tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de m'avoir invité à venir ici. Je ne suis pas une militante strictement dans le domaine de l'eau et je ne suis pas canadienne non plus. Alors, j'apprécie vraiment cette invitation. Et je tiens à applaudir le travail du Conseil des Canadiens et du SCFP qui a organisé ce forum et qui reconnaît l'importance étant essentielle des collectivités au niveau, qui peuvent apporter un changement au niveau communautaire, et à ce moment-là, ça peut faire avoir des retombées jusqu'au niveau national, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder, franchement. Alors, les campagnes axées sur les droits, pour moi, dans mon autre lien avec le Canada, c'est que j'ai déjà travaillé au Forum international sur la mondialisation, et Maude Barlow est membre du conseil d'administration là, et une source d'inspiration importante. Quand je travaillais là, on est allé au ministériel de l'OMC, aux conférences des Nations Unies. Le problème pour moi, c'était aux plus hauts échelons, et c'était là-dessus que j'accède mon énergie, mon temps. Maude Barlow, elle, est allée à Cochabamba. Daniel en a parlé hier. Et quand elle est revenue de ce voyage, elle m'a inspirée à mieux comprendre que la révolution peut se produire quand on inspire la base, quand on leur fait comprendre leurs droits naturels. Notre droit profond et le droit à l'eau est un de ces droits. Alors, j'ai quitté le groupe auquel je travaillais pour trouver les mesures que je pourrais prendre aux États-Unis même. Cette révolution-là, où allait-elle se produire aux États-Unis? J'ai rédigé ce livre comme façon de m'y retrouver. Moi, je cherchais la panacée. Quelle est la meilleure façon d'organiser nos collectivités? Quel est le sentier à suivre, qu'on devrait tous suivre pour éviter d'avoir à réinventer la roue les uns après les autres? Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des collectivités, là, je vais examiner des milliers de luttes dans des collectivités partout aux États-Unis. Ça, c'est ce qui est encourageant, parce qu'aux États-Unis, on n'en entend jamais parler du fait que les collectivités luttent pour en arriver à une situation où ils pourront identifier ce qu'elles veulent être comme collectivité. Et les obstacles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là-dessus que j'ai mis l'accent dans la recherche pour mon livre. Et ce que j'ai constaté, c'est que malgré tous les efforts de la part de milliers de collectivités partout aux États-Unis, ce que ces collectivités avaient toujours à confronter, ce n'était pas uniquement que les sociétés ont fait beaucoup de travail sur la responsabilité des sociétés aux États-Unis et tout ça. Mais ce que, quand j'ai commencé à examiner ce qui se répétait d'une collectivité à l'autre, j'ai constaté qu'il n'y avait pas égalité des chances au départ, que le terrain de jeu n'était pas celui que souhaitaient les collectivités, parce que si on commence par dire, bon, qu'est-ce qu'on veut? On veut dire non à cette activité qui n'est pas souhaitable. On veut pas la grosse ferme industrielle. On veut pas le dépotoir toxique dans notre collectivité. Mais on n'a pas le droit de dire non, tout simplement, dans les collectivités, parce que la structure du droit est telle que ça n'est pas permis. Tout ce qu'on peut faire, c'est de réglementer pour essayer d'améliorer les choses. Et on peut aussi s'en prendre aux sociétés. Si on fait suffisamment de bruit dans une collectivité, on peut avoir un gain là, oui, mais la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'installer dans la collectivité d'à côté. Ils mettent la paille à simplement une collectivité plus haut, et puis ils prennent l'eau de ce côté-là, où Walmart s'installe à 20 000 de là. Et puis, au lieu de s'installer directement dans la collectivité, pour moi, ça n'est pas une victoire en soi. Ça n'est pas ce que nous recherchions pour pouvoir apporter un changement en profondeur et en arriver au résultat souhaité. Alors, qu'est-ce qui faisait obstacle en réalité? Ce qui faisait obstacle, c'était la structure du droit. Il faut en arriver à une situation où on pourra définir, nous, les collectivités, ce que nous souhaitons accomplir, que ce soit ça le terrain de jeu. Si ce qu'on veut, c'est de dire non, à ce moment-là, c'est ça le point de départ, si réellement on veut avoir une victoire sur ce plan. J'ai examiné une des choses les plus profondes que j'ai constatées en cherchant des réussites dans les collectivités. C'est une petite collectivité rurale, très conservatrice, dans la Pennsylvanie rurale, où on avait adopté une loi comme quoi, d'abord, on interdisait que les boues toxiques rentrent dans la collectivité. Ça posait un problème grave en Pennsylvanie. Les enfants mouraient à cause de l'exposition à ces boues toxiques qui ensuite ruisselaient jusque dans la nappe phréatique. Alors, ils voulaient dire non, mais ils ne pouvaient pas dire non. Alors là, ils se sont dit, ben, dans ce cas-là, il faut changer la loi du tout au tout. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'adopter une loi qui dit non seulement non aux boues toxiques, mais qui dit dans cette municipalité, les entreprises n'ont pas le droit de débarquer et d'avoir recours à la Constitution ou aux droits de l'État. Parce que toutes ces lois-là permettent d'épandre ces boues toxiques. Ils disent non, dans cette municipalité, ces droits-là, ils ne sont pas reconnus. Et vous pouvez nous poursuivre si vous le souhaitez, mais nous, nous affirmons notre droit de refuser ces choses que nous ne souhaitons pas. Nous voulons définir pour nous-mêmes la collectivité que nous souhaitons. Et pour moi, ça, ça a été une notion révolutionnaire. Je voulais en apprendre plus parce que pour moi, c'était quelque chose sur quoi nous nous devions de travailler. Alors, par rapport au travail axé sur les droits, c'est justement là que j'ai commencé. Ce que j'ai constaté, c'est que les collectivités sont tout à fait prêtes. Une fois qu'elles comprennent que le problème, ça n'est pas l'entreprise ou la société, le fait de retirer l'eau, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas le droit de dire non à ce que nous ne voulons pas. Nous n'avons pas le droit de créer les milieux que nous souhaitons créer. Les collectivités disent, ben dans ce cas-là, si la loi a été créée pour le peuple, par le peuple, on a le droit de changer la loi. Alors, c'est ce que nous faisons et pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Merci, Shannon. Je me demande si vous pourriez peut-être, parce que vous savez, nous affrontons ce nouveau projet que nous avons au Conseil des Canadiens. Quand on nous présente ça dans les collectivités, c'est un défi de taille. Et je me demande, dans un contexte où les entreprises ont tellement de pouvoir, comment est-ce que les collectivités peuvent affronter ça, le risque d'être poursuivies par de l'entreprise ou bien que d'autres paliers du gouvernement obligent la municipalité à respecter les contrats qui ont été passés. Bien, ça, c'est le travail le plus difficile que j'ai jamais eu à faire, mais c'est vraiment là aussi que je trouve tout ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est que nous enseignons ce modèle d'organisation communautaire quand nous allons dans différentes collectivités. Les collectivités, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, on a tout essayé, on ne veut pas que cette mine de charbon débarque, on ne veut pas qu'il nous puise toute notre eau. Mais on a essayé toutes les mesures ordinaires. La loi réglementaire dit, il faut tout simplement l'accepter. On a envoyé des lettres, on a manifesté, on est allé aux audiences, on a fait ces choses-là et ça n'a rien donné. Quand ils comprennent que la loi ne donne pas les résultats qu'eux souhaitent, oui, il y a des gens qui sont prêts à s'exprimer, à être la Rosa Parks, c'est de dire on va pas accepter d'être à l'arrière de l'autobus. Non, on va dire ici il s'agit de nos droits et si nous vivons bel et bien dans une société démocratique, à ce moment-là, il nous faut affirmer ces droits-là. L'histoire nous dit que ceux qui sont prêts à contester des lois injustes peuvent changer ces lois. Et Rosa Parks, elle savait bien qu'elle allait à l'encontre des règles de la compagnie d'autobus, de la loi locale, la loi de l'État, la loi fédérale qui disait qu'il fallait qu'elle cède sa place, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce que c'est une lutte facile à mener? Est-ce que c'est facile de demander aux collectivités de se lever, de se mettre en travers des lois de l'État, de l'entreprise, de la nation? C'est facile, mais c'est aussi difficile. C'est facile parce que quand les gens comprennent que ce que la loi est censée être, ce que le gouvernement est censé être, il est censé être pour nous, c'est notre gouvernement. Quand les gens commencent à comprendre cela et veulent traduire leur enjeu, que ce soit l'eau ou la question de savoir qui décide, qui peut décider si moi je vais devoir vivre à côté d'un dépotoir toxique. Est-ce que c'est la compagnie de déchets qui ne vit même pas dans la collectivité ou est-ce que c'est nous collectivement qui avons à vivre avec ça et qui avons à vivre avec ces politiques? Et les gens finissent par être assez fâchés et ils sont tout à fait prêts à ce moment-là à se lever et à revendiquer leurs droits démocratiques.
Et bien sûr, il y a aussi l'effet de boule de neige, n'est-ce pas? Une fois qu'on a une collectivité qui organise ou qui résiste au droit des entreprises de détruire l'environnement, après ça, il y a d'autres collectivités qui se joignent à l'équipe. Je suis très impressionné par voir le nombre de collectivités qui ont adopté de telles pratiques. Mais oui, la première collectivité, c'était Quarter Township en Pennsylvanie. Le travail a commencé en Pennsylvanie et le travail est très avancé en Pennsylvanie. Maintenant, c'est au Maine, dans New Hampshire, en Pennsylvanie, bien sûr, dans l'État de Washington et maintenant en Californie, où je réside. Nous avons plus de 125 collectivités qui ont effectivement adopté des lois, des projets de loi, comme quoi les entreprises sont subordonnées au contrôle démocratique et les citoyens ont toujours le droit de prendre des décisions sur l'eau, les mines, etc. Donc, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent maintenant dans ce régime juridique. C'est incroyable. Nous avons une pratique semblable au Canada avec l'élimination de l'eau en bouteille. On a commencé il y a environ 2 ans. Et c'était un militant de chez nous à Charlottetown qui a travaillé très fort pour faire bannir l'eau. Et ce n'était pas facile, mais une fois que c'est banni une fois, maintenant je pense qu'il y a plus de 70 villes qui interdisent l'eau en bouteille dans les réunions. Alors c'est incroyable. Une fois qu'on mobilise les collectivités, une fois qu'on fait le premier pas, c'est beaucoup plus facile. Pourriez-vous nous dire concrètement ce que ça veut dire que d'aller dans une collectivité et organiser ces gens pour faire quelque chose? Bon, mais là, on me téléphone chez moi, à Global Exchange. Ils ont tout essayé, et je suis le dernier ressort. Les gens disent, bon, mon Dieu, on va peut-être essayer le système de réglementation pour arrêter la privatisation des eaux. Alors, quand on me téléphone, c'est quelqu'un qui est paniqué, qui travaille peut-être depuis des années sur une campagne donnée. Parfois, c'est une nouvelle menace pour la collectivité. En temps ordinaire, je passe une couple d'heures au téléphone avec ces gens-là. Je parle de ce travail et je dis, bon, est-ce que je peux aller chez vous pour parler de votre groupe communautaire? Que ce soit une réunion publique, une vingtaine de personnes, moins, plus, qu'importe. Et je pose la question suivante. J'ai dit, chez vous, qui décide si les entreprises peuvent polluer, si les entreprises peuvent saper vos ressources, extraire vos ressources? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, si c'est quelqu'un d'autre, eh bien, le problème authentique, c'est qu'on n'a pas la démocratie dans votre lieu de résidence. Alors, si vous n'avez pas la vraie démocratie, vous n'avez pas le droit de prendre des décisions. À partir de cette conversation, et là, j'explique les problèmes, j'explique jusqu'à quel point c'est difficile. Les gens doivent comprendre qu'il y aura des objections juridiques. Il y aura des objections juridiques à n'importe quoi de nos jours. Mais si vous ne le faites pas, ça va nuire à votre collectivité, c'est sûr. Et c'est une façon de stopper, d'arrêter le mal, le tort, et refaire votre structure. Alors donc, on commence avec des forums, des citoyens, et il faut, bien sûr, un noyau de gens dans une collectivité donnée. Quel que soit le travail de mobilisation qu'on fait, il y a toujours un noyau de gens qui comprennent la chose, qui comprennent l'importance et qui sont prêts à répandre la bonne nouvelle. Et ils veulent transformer la conversation. Le problème, ce n'est pas de l'eau. C'est qui décide, qui prend des décisions et qui devrait être le décideur. Alors là, ça mobilise les gens. On peut faire un débat chez nous pour dire, bon, mais le dépotoir, ça va créer des jobs, des emplois, ça peut être pas si mauvais. Mais quand on parle plus de dépotoir ou d'eau, vous laissez de côté un point en détail. Mais les gens disent, mais c'est nous qui devrions décider, point. Et ainsi, on mobilise beaucoup plus de gens. Il ne s'agit pas d'avoir une question à gauche ou à droite. Non. C'est que c'est votre collectivité, c'est votre groupe, c'est les citoyens qui devraient décider. Ce n'est pas facile. Nous avons adopté un document comme quoi les collectivités peuvent envisager quelque chose, mettons que la collectivité s'intéresse à avoir des sources d'eau potable. Alors, quelles sont les difficultés? Quelles sont les dispositions nécessaires? Alors, donc, nous avons des documents pour aider ces gens à modeler leur collectivité. Et comme dans toute campagne, Il s'agit bien sûr de faire adopter ce projet de loi ou ce décret. Et là, il s'agit bien sûr de former les citoyens, éducation. Ici, nous avons une victoire récente au Canada, que vous connaissez sans doute. Voilà, Stephen Ogden, de la collectivité de comté de Simcoe en Ontario. Nous avons travaillé avec les citoyens pour prévenir la construction d'un dépotoir sur une source d'eau, la nappe phréatique. Alors, Stephen est très militant dans son patelin et on l'appelle effectivement le parrain du site 41. La collectivité est dans le comté de Simcoe. Depuis 25 ans, les citoyens luttent pour mettre fin au site 41, dépotoir projeté sur l'eau la plus pure nappe phréatique au monde. Alors, Stephen Ogden habite à côté du site 41 et a toujours été un militant de la lutte. Imaginez donc ce que ça veut dire. C'est une lutte qui dure depuis 25 ans et enfin, on voit la victoire. Moi aussi, j'ai participé à cette lutte depuis quelques mois, alors je ne peux pas résumer en quelques mots de quoi il s'agit, mais je vais essayer. Il y a 25 ans, environ 25 ans, il y avait un comité qui devait choisir un site pour le dépotoir qui ont rejeté ça. Le ministre de l'Environnement a choisi le site et c'était une décision affirmé. Alors donc, la municipalité n'a pas voulu, mais par décret, le gouvernement a changé la décision. Alors donc, il a fallu respecter ce décret de la province. Après 23 ans de rapports d'ingénieurs, d'objections juridiques, batailles politiques, etc., on a commencé la construction au printemps de 2009. Alors, à ce moment-là, Stephen et d'autres militants, là, il y avait un effet de boule de neige, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens dans la région se sont réunis. Il y avait même des femmes des Premières Nations qui ont fait des manifs sur le site 41. Ils étaient là entre mai et septembre. Imaginez, ils ont fait un vigile entre mai et septembre sur le site 41. Et c'était un exemple fantastique de l'alliance composée de différents groupes qui sont là, malgré leurs différences politiques. Il y avait des conservateurs, des libéraux, des néo-démocrates, des agriculteurs, des autochtones. Tout le monde était là. Tout le monde était là pour faire ce qu'il fallait faire pour protéger la nappe phréatique contre le dépotoir. Et en fin de compte, on a décidé qu'il fallait faire une interdiction. Donc, il y avait une interdiction de 24 heures par jour pour interdire l'accès au site. Il y avait 18 personnes qui ont été mises en état d'arrestation, parfois des vieilles personnes, des aînés. Malgré tout, la collectivité a persisté. Il y avait des menaces, des peines de prison, des amendes. Mais enfin, on a eu la victoire quand les conseillers du comté ont reçu des courriels et des appels téléphoniques de partout au pays, partout au Canada. Alors, on a mobilisé le CFP, le Conseil des Canadiens, le CFP Ontario, et nous avons pu attirer l'attention de tout le monde à cette lutte. Les médias nationaux étaient là pour dénoncer le projet. Alors, c'est une victoire très importante, mais la bataille a été très longue. Stephen Ogden est ici pour nous raconter cette lutte. Stephen, est-ce que tu pourrais décrire pour nous le pourquoi et le comment de la victoire? Oui. Je pense que nous sommes arrivés à ce point-ci grâce aux gens comme vous, les gens qui veulent ces entreprises, ont de l'argent, ont des ressources et ils ont le droit derrière eux, mais n'ont pas de cœur, n'ont pas de courage. Et vous avez du cœur, vous avez du courage. Pour moi, cette lutte fut très difficile. Demeurer engagé, demeurer positif, regarder les faits, dévoiler les faits. Il faut savoir pourquoi on se bat. Pour moi, c'était l'eau. Alors, quelles que soient les raisons personnelles qu'on a vues partout, il a fallu toujours revenir à la question principale, l'eau et la démocratie. Et c'était notre collectivité. Pour moi, je savais que c'était une lutte qu'il fallait gagner. Et donc, nous n'allions pas perdre. Et on a souvent dit, c'est fait accompli, c'est un fait accompli. Alors, j'aime pas ça. Oui, c'est un fait accompli. Et les gens m'ont dit à plusieurs reprises que je ne devrais pas m'engager. Mais j'ai résisté. Il aurait été facile de rentrer chez moi, mais c'était la gaffe mortelle pour ces gens-là. Quand je rentrais chez moi, je regardais dans les yeux de ma fille et je n'ai pas pu abandonner. J'ai dû retourner. Il fallait passer d'une maison à l'autre pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il est clair que depuis un an, il y a des choses incroyables qu'on a vues. J'étais assis sur le toit de ma maison à Noël et je reçois un coup de téléphone dans mon téléphone cellulaire. C'est un docteur Chota qui m'a dit, « Steve, où es-tu? » Je dis, « Je suis sur le toit. Je mets des bardeaux. » Il dit, « Est-ce que tu peux sortir du toit? Je ne veux pas que tu tombes. » Alors, je suis descendu du toit à l'abri du vent. Puis le docteur dit, « Je viens de parler avec Maude Barlow. » Elle m'a dit qu'elle veut nous aider. Est-ce qu'elle peut vous donner un coup de main? J'ai dit, « Oh, mon Dieu! » Il y a quelqu'un qui me téléphone de l'Allemagne pour me dire que quelqu'un à toi veut me donner un coup de main. Alors, dans mon église, on m'appelle la prostituée joyeuse. C'est ce que je sais, attraper des gens. Et là, ils savent que c'est leur lutte, c'est leur bataille. Stephen. Mettez le micro plus loin, s'il vous plaît, monsieur. Non, non, plus! Plus! Il ne change pas. Ah, sacrement! Il n'y a rien foutu. Enfin. Alors, je vais voir les gens et je suis très sincère. Je ne veux pas abandonner la lutte. Pour moi, cette entreprise, mot comme entreprise est mitigé, atténué, c'est quand même quelque chose. Et c'est comme un jeu. Moi, j'ai joué au rugby dans le passé. Et c'est dur. Et parfois, j'ai le ballon au rugby. Et je peux courir, mais après avoir compté, je redonne le ballon. Mais quelle gaffe! Et ensuite, j'essaie de reprendre le ballon. Et c'est ça qu'on fait toujours. Alors, quand on a mobilisé tous ces gens-là, et ils ont risqué leur vie, alors on a prouvé que nous avons du cœur et du courage. Nous nous occupons de nos enfants, et nous allons vaincre. Tant et aussi longtemps qu'on n'abandonne pas. Et l'ennemi, c'est les politiciens. Et je suis certain qu'ils se font opérer sur le cerveau pour enlever le cerveau après l'élection, pour que quelqu'un puisse les contrôler. Je ne sais pas pourquoi ils veulent être contrôlés, mais un conseiller m'a dit, Steve, il faut se faire enlever le cerveau pour être politicien. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, je sais que les politiciens n'ont pas de cerveau. Alors, mais vous avez du courage, vous avez du cœur, vous préoccupez de nos enfants. Et vous vous préoccupez de l'avenir du Canada. Nous sommes l'avenir du Canada et nous allons donner un bon exemple.
So, Site 41 is of course.
Alors, le site 41 est un exemple fantastique du pouvoir de l'action communautaire. Pourriez-vous nous en parler un peu, Stephen? Est-ce que vous avez des conseils pour d'autres collectivités qui ont des luttes semblables? Pour organiser une telle campagne, il faut engager tout le monde. Et pour ce faire, nous avons créé des groupes. Ensuite, on a réuni des fonds. Et on l'a fait de la façon la plus simple possible. Des ventes de garage, des soupes aux spaghettis, des danses communautaires. Et tout le monde était là pour participer à ça. Et tout le monde était très à l'aise dans ce milieu. Parce que tout le monde voulait contrôler la campagne et la lutte. Alors, ainsi, on a réuni beaucoup d'argent afin de poursuivre la lutte. Bien sûr qu'on n'a jamais assez d'argent. Ensuite, il a fallu trouver des gens qui ont de l'influence, des avocats qui ont plus de connaissances que nous, et on leur a appris à avoir du cœur. Ils nous ont aidés. Alors là, ils ont parfois travaillé pour nous, sans beaucoup de récompenses, pour des frais inférieurs. Ensuite, on a trouvé des informaticiens, des gens qui savent organiser des sites web, etc. Donc, on peut attirer des bonnes personnes si on a une bonne cause. De fait, vous ne pouvez pas empêcher des gens de se joindre à vous. Et il est important de sourire, parce que si vous souriez, vous allez dire la bonne chose. Si vous êtes en colère, vous allez peut-être dire quelque chose que vous allez regretter. Alors, souriez toujours. Alors, le sourire, ça vous protège. Parce que votre objectif, votre but est plus important que votre réaction personnelle ou votre colère. À l'intérieur, je suis vraiment en colère, mais je ne laisse pas voir, jamais. Je suis furieux. Mais moi, je dis d'abord, on va rester calme et on va trouver une solution. Merci. Aussi, lors de notre engagement au Conseil des Canadiens, nous avons commencé à travailler. On a commencé au niveau provincial. Nous voulions persuader le gouvernement provincial de renverser la décision. Et cette bataille nous a appris que il faut commencer à la base. C'est la façon de gagner. Et si le ministre même a refusé de voir des conseillers municipaux ou du comté qui voulaient voir le ministre, les ministres, les conseillers qui étaient contre le projet. Mais là, il y a un autre projet de loi, 32. Ça ressemble drôlement à un ancien projet de loi, mais... Ah oui, ça c'est notre député provincial, Garfield Dunlap, qui travaille avec nous. Lui, il a toujours un cerveau, malgré le fait d'être politicien. Lui, il n'a pas encore enlevé le cerveau. Alors donc, ce projet de loi va fermer ad vitam aeternam le site 41. Et c'est la copie, la sosie du projet de loi qui a fermé la mine Adam. La force de ce projet de loi réside dans le fait que nous avons témoigné des libéraux qui ont voté en faveur de ce projet de loi. Mais il ne faut pas être trop étonné, ou bien vous êtes peut-être étonné, vous, de savoir que nous avons une équipe. Et avant de passer à la mise en voie, plus de 53 000 courriels ont été envoyés aux députés pour rappeler à ces derniers que ce serait bon de voter en faveur de ce projet de loi. Et après, Il y avait des milliers de courriels pour remercier les gens qui ont voté en faveur de ce projet de loi. Et demain, lundi, on va envoyer encore des milliers de courriels aux députés de peut-être repenser leur imposition s'ils ont voté contre. Il faut expliquer que le comté de Simcoe a décidé de faire un moratoire permanent sur le dépotoir, le site d'enfouissement. Alors, la province doit émettre un certificat d'approbation. Et la peur, la crainte, c'est qu'un gouvernement futur va toujours permettre la construction de ce dépotoir, de ce site d'enfouissement. Alors, nous voulons que le gouvernement provincial révoque le certificat et qu'ainsi, il n'y aura jamais d'enfouissement au site 41. Alors, donc, ce processus est quand même assez avancé. Il y a eu deux lectures devant la législature provinciale et nous sommes très confiants de gagner au niveau provincial. Chose inimaginable il y a quelques mois. Alors, merci à Stephen. Merci d'être venu. Et Deb Mink, est-ce que Deb est là? Deb, lève-toi. Deb Mink est là, de SFP Ontario. Un autre héros local qui a fort travaillé.
Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu. Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont organisé le sommet pour souligner le 10e anniversaire de la coalition aux aguets. Il a eu lieu à Ottawa du 27 au 29 novembre 2009.